poussière et granit. Présenté par Christian Delors.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Radio Alliance Plus 103.2 FM, DAB+, et notre site internet radioalliance-plus.fr. Voici Poussière et Granit, au micro Christian Delors et à la technique Louis Esparcel. C'est par un article concernant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens que commence cette émission, puisque cette semaine a traditionnellement lieu du 18 au 25 janvier. Nous abordons ensuite les nouvelles locales, avec d'abord les activités de la Maison du protestantisme, notamment l'exposition sur le refuge. Puis nous aurons une information sur les persécutions des chrétiens dans le monde, avec l'association Portes Ouvertes. C'est ensuite une information sur la décennie mondiale sur la justice climatique proposée par le Conseil œcuménique des Églises. Et l'émission se terminera avec une réflexion sur la fin de vie au moment où le Sénat s'empare de cette question. Semaine de prière pour l'unité. Depuis longtemps, du 18 au 25 janvier, une invitation est lancée à tous les chrétiens, prier, réfléchir et espérer ensemble. Les chrétiens du monde entier sont invités à vivre la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Chaque année, cette démarche œcuménique propose aux églises de différentes traditions de prier ensemble, de réfléchir ensemble, et de témoigner ensemble au-delà de leurs différences confessionnelles. La semaine de prière n'est ni un événement institutionnel, ni un temps réservé aux spécialistes de l'œcuménisme. Elle est un espace ouvert, accessible à toutes et tous, pour faire l'expérience d'une foi partagée et rappeler que ce qui unit les chrétiens est plus profond que ce qui les distingue. L'unité est une mission divine qui, plus qu'un simple idéal, est au cœur de notre identité chrétienne. Elle représente l'essence de la vocation de l'Église, un appel à refléter l'unité harmonieuse de notre vie en Christ au milieu de notre diversité. Cette unité en Dieu est centrale dans notre mission et est nourrie par l'amour profond de Jésus-Christ qui nous met face à un objectif unique. Cette année, les prières et réflexions pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens ont été préparées par les fidèles de l'Église apostolique arménienne avec leurs frères et sœurs de l'Église catholique et des églises évangéliques arméniennes. Autour de cette parole de l'apôtre Paul, il y a un seul corps et un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance. C'est un texte tiré de l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4 et verset 4. Dans un monde marqué par la fragmentation, la pluralité des expressions chrétiennes et parfois des divisions, ce verset rappelle une conviction essentielle. Tous les croyants font partie d'un même corps, appelé à vivre la communion, la responsabilité et l'espérance. Le Conseil d'Église chrétienne en France, qui rassemble les responsables de toutes les familles chrétiennes en France, fait une proposition des destinataires pour les collectes recueillies pendant la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Les organisateurs de célébrations œcuméniques gardent toute liberté d'envoyer les dons à un autre organisme dont ils auraient connaissance. On peut télécharger gratuitement diverses ressources proposées par les organisateurs de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens sur le site internet du Conseil des Églises chrétiennes en France. Ces ressources sont par exemple des prières, des textes divers autour de la question de l'unité. Information locale. À Nîmes, la maison du protestantisme, située 3 rue Claude Brousson, à deux pas de la maison carrée, vous accueille le matin, du mardi au vendredi, de 9h30 à midi, l'après-midi du lundi au vendredi, de 14h à 17h, et le samedi, de 10h à midi. La maison propose à toutes et tous, sans inscription préalable, tous les jeudis, hors vacances scolaires, un repas moyennant une petite participation financière. Le prochain repas aura donc lieu le jeudi 22 janvier à 12h15. La bibliothèque de la Maison du Protestantisme est ouverte tous les vendredis de 14h à 16h. Et voici maintenant une information concernant une exposition intitulée « Refuge ». Cette exposition est présentée dans le hall de la Maison du Protestantisme 3 rue Claude Brousson jusqu'au 8 février. Nous avons tendance à voir le refuge ou l'immigration comme uniquement un mouvement des populations pauvres vers des pays riches. La question du refuge ou de l'accueil est plus vaste. Il y a parfois des déplacements de population au sein d'un même pays. Le refuge est encore plus vaste. Un enfant qui s'évade par le rêve en écoutant son professeur, les enfants au Japon qui s'abritent sous les tables lors d'un tremblement de terre, voilà bien d'autres notions du refuge. Le regard que nous portons sur l'idée du refuge et sur les mouvements migratoires permet de relativiser l'accueil de l'autre. On trouve trace de la notion de refuge dès l'origine de l'humanité. C'est l'espoir qu'il existe toujours, quelque part, un endroit dans lequel on pourra vivre. Dans la Bible, c'est l'arche de Noé. Pour le lapin, c'est le terrier. Pour les alpinistes, c'est le refuge de montagne qui les abrite de la tourmente, ou les églises du refuge pour les huguenots. Mais le refuge, c'est plus qu'un lieu matériel. C'est le fondement de la vie. L'assurance que, quelles que soient les conditions et les difficultés, il y a toujours une issue. C'est un formidable message d'espoir qui nous permet d'entreprendre, de faire une pause et de repartir, quelle que soit l'horreur vécue et les difficultés traversées avant de trouver le refuge. C'est donc une exposition qui a commencé la semaine dernière et se poursuivra à la Maison du Protestantisme 3 rue Claude Brousson, jusqu'au 8 février. À la Maison du Protestantisme, le groupe Évangile et Liberté se réunira le mardi 20 janvier à 17h30 avec pour thème CRISPR-Cas9, il s'agit des ciseaux génétiques, révolution thérapeutique ou boîte de Pandore. Portes ouvertes. C'est une information qui nous est communiquée par la Fédération protestante de France. Chaque année, l'ONG Portes ouvertes, au pluriel, publie l'index mondial de persécution des chrétiens, référence internationale qui analyse la situation dans les 50 pays où les chrétiens sont les plus exposés aux violences, pressions et discriminations. L'édition 2026 marque un tournant préoccupant. La persécution atteint un niveau inédit depuis la création de l'index en 1993. Les chiffres clés sont sans appel. 388 millions de chrétiens sont aujourd'hui exposés à des persécutions ou discriminations fortes, soit près de 8 millions de plus qu'en 2025. Cela représente un chrétien sur sept dans le monde. 15 pays ont atteint en 2025 le niveau de persécution extrême, entre guillemets, un record historique. Le score mondial de persécution progresse année après année, traduisant une aggravation structurelle et durable. Les résultats ont été dévoilés lors d'une conférence de presse le 13 janvier, à la Maison du Protestantisme à Paris, en présence de David Emerlin, directeur de Portes Ouvertes, et de Guillaume Guénec, directeur du plaidoyer. La rencontre a également réuni Jean-Christophe Possel, conseiller pour les affaires religieuses au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, ainsi que Christian Krieger, présidente de la Fédération protestante de France, Valérie Duval-Poujol, sa vice-présidente, et Jean-Raymond Stoffacher, son secrétaire général. Au-delà des chiffres, l'index 2026 interroge la capacité des sociétés et des États à garantir la liberté de religion et de conviction, pilier fondamental des droits humains. Justice climatique. C'est une réflexion qui nous est proposée par l'Église protestante unie de France. Une décennie mondiale pour la justice climatique, pourquoi faire ? Face aux effets amplificateurs des évolutions climatiques sur les injustices, le Conseil œcuménique des Églises invite à s'engager collectivement. Justice et injustice climatique. La justice est une valeur morale consistant à donner à autrui ce qui lui est dû. Elle est omniprésente en contexte biblique et centrale dans le programme du Conseil œcuménique des Églises. Dans le cadre particulier des enjeux climatiques, elle consiste à agir pour protéger les plus vulnérables contre les conséquences des changements induits et à veiller à une répartition juste des efforts d'adaptation. Inversement, on peut considérer les injustices climatiques. À titre d'exemple, dès 2021, la Banque mondiale estimait à plus de 200 millions le nombre de personnes qui devraient quitter d'ici 2050 leur zone de vie actuelle à cause des changements climatiques, multiplication des inondations, épisodes météorologiques extrêmes, sécheresse. Ce risque pèse prioritairement sur les pays d'Afrique subsaharienne, d'Asie du Sud et d'Amérique latine. Or, ce sont les zones du monde les moins émettrices des gaz à effet de serre responsables de ces changements. Il y a là une situation injuste à l'échelle mondiale. De telles inégalités climatiques existent aussi à l'intérieur d'une population donnée. Les plus pauvres, qui ont, parce qu'ils consomment moins, la plus faible empreinte carbone, sont les plus impactés. Habitat inadapté, manque de ressources pour trouver des alternatives, plus grande fragilité face aux fluctuations des coûts de l'alimentation, etc. De fait, les changements climatiques accroissent les inégalités sociales. Le terme de justice climatique peut également renvoyer à des actions de nature juridique visant à obtenir des États ou des décideurs qu'ils respectent leurs obligations climatiques. Ces actions en justice sont de plus en plus fréquentes. Ainsi, la justice climatique fait partie intégrante de la justice économique et sociale et exige de façon constante vigilance et action appropriée. Les injustices climatiques dans l'actualité. Au début des années 2000, une controverse scientifique a éclaté à propos du Vanuatu. La montée des eaux, bien réelle, était-elle due au changement climatique ou à des phénomènes tectoniques naturels ? À l'époque, certains travaux scientifiques soulignaient que, dans ce cas particulier, les changements climatiques n'étaient pas les seuls responsables de la situation. Mais « pas les seuls » ne veut pas dire « pas du tout ». Ces changements ont bien amplifié un phénomène naturel. Le programme du Conseil œcuménique des Églises. Face aux évolutions trop rapides du climat, considérant que les chrétiens et les Églises ont un devoir moral de s'engager pour réduire les causes et les effets de ces bouleversements, le Conseil œcuménique a engagé en juin 2025 une décennie pour la justice climatique et produit des outils pour soutenir les églises membres, dont la nôtre, dans leurs efforts dans ce domaine. Le président du comité central du Conseil œcuménique des Églises a déclaré récemment que l'enjeu de la justice climatique est au cœur du pèlerinage de justice, d'unité et de réconciliation, et qu'il incombe aux églises de soutenir avec clarté que les transformations nécessaires relèvent du devoir moral. Mais il a aussi souligné que l'impact de cette décennie se mesurera à l'aune des efforts des églises et de leurs paroisses partout dans le monde. Alors, comment allons-nous personnellement et en Église nous engager pour cette justice ? Aller plus loin. Pour aller plus loin, diverses pistes nous sont proposées. Diverses publications existent. Je signale par exemple « S'engager pour la justice climatique, contribution protestante au pluriel ». C'est un livre de 160 pages écrit par Jean-Philippe Bard et Martin Kopp, édité chez Paris Scriptura 2022. S'il aura fallu près de 50 ans pour que la crise écologique dans ses nombreuses dimensions soit reconnue comme un défi majeur pour nos sociétés, le réchauffement climatique se manifeste désormais comme une partie critique et un puissant révélateur de cette crise. Cet ouvrage propose un approfondissement de la justice climatique. À partir d'un état des lieux scientifique, il s'ancre dans les réflexions bibliques et théologiques pour réfléchir à une action chrétienne au niveau collectif, politique et personnel. Les auteurs, ce sont Jean-Philippe Bard et Martin Kopp de la Commission écologie et justice climatique de la Fédération protestante de France. Ce livre réunit également les contributions de Valérie Masson-Delmotte, Laura Morosini, Athéna Peralta, Frédéric Rognon, Sarah Stewart-Crucker et Marilyn Van Deventer. Il nous est aussi proposé de lire le dossier réalisé par la Fédération de l'entraide protestante. Il s'agit du numéro 176 de la revue Proteste. Un passage au vers salutaire. Débat sur la fin de vie. À partir du 20 janvier, le Sénat examinera la proposition relative à l'aide à mourir, adoptée par l'Assemblée nationale le 27 mai 2025. Pour éclairer les débats, l'Église protestante unie de France rappelle sa résolution sur la fin de vie votée au Synode national de 2013. La voici. Le Synode national de l'Église protestante unie de France à Lyon en 2013 a adopté une résolution à propos de la fin de vie humaine. Le texte de cette résolution et le guide de réflexion l'accompagnant sont des documents utiles pour aider à la réflexion sur ce sujet. Le synode n'ambitionnait nullement de prescrire des consignes ni d'exprimer une parole définitive sur une question qui touche au plus intime et à l'ultime de chaque vie. La résolution présente en préambule le fait que l'Église protestante unie de France est plurielle et qu'en matière d'éthique, les approches sont diverses. Elle développe ensuite des réflexions sur la dignité comprise de diverses manières, sur une médecine qui accompagne, sur les options légales, leurs limites et leurs questions, sur le risque de la liberté et sur la responsabilité des Églises. On peut retrouver le détail de cette résolution à propos de la fin de la vie humaine sur le site de l'Église protestante unie de France. Nous allons maintenant terminer cette émission. Je vous rappelle que Poussière et Granit, que vous êtes en train d'écouter, est diffusé le mardi à 7h20, le jeudi à 11h15 et le dimanche à 10h10, juste avant la diffusion du service protestant. Au revoir.